Raymond Richard au micro, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi avec Elisabeth et nous poursuivons la lecture de l'encyclique Loué sois-tu du pape François. Dans les dernières émissions, on avait évoqué comment le paradigme technocratique envahissait toutes les sphères de la science, de l'humanité et notamment de l'environnement. Et on a vu dans un des derniers points que lorsque ce paradigme technocratique se soumet à la finance, on a là le comble de la déshumanisation. Et c'était dans la partie que le pape François appelait la globalisation du paradigme technocratique. D'où l'idée qu'il développe, nous en sommes au numéro 110, de la spécialisation de la technologie qui rend les choses extrêmement difficiles pour regarder l'ensemble.
Oui, parce que cette spécialisation amène à une fragmentation des savoirs et on a tendance à perdre le sens de la totalité, de la globalité.
Oui, alors donc un problème, pouf, on essaie de trouver une solution à ce problème sans essayer de voir dans quel environnement, dans quel ensemble ce problème prend naissance. Et nous dit le pape, cela amène à perdre le sens des relations qui existent entre les choses. Cela amène à ne pas voir l'horizon large et surtout, puisque ce sont les plus pauvres qui ne peuvent pas se défendre et parler, cela amène donc à ignorer complètement les problèmes complexes qui concernent l'environnement des pauvres, qui concernent les problèmes de la faim, qui concernent toutes ces difficultés pour lesquelles on se dit la science ou la croissance fera bien les choses sans y regarder de plus près.
Oui, parce qu'on oublie ce que peuvent apporter les autres domaines du savoir, comme la philosophie, l'éthique sociale, et ça, on n'y fait pas attention.
Alors là, le pape insiste beaucoup sur l'éthique sociale, en gros, la morale. C'est pourquoi, dit-il, de véritables horizons éthiques de référence ne peuvent pas non plus être reconnus. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique. Et, dit-il, on voit une fois de plus que la réalité est supérieure à l'idée. C'était déjà un thème qu'il avait largement développé dans son texte « La joie de l'Évangile ». Mais, nous dit-il, il est très important de revenir à la réalité et surtout de regarder ce qui se passe.
Oui, alors la culture écologique qui devrait naître devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie, une spiritualité qui permettrait de résister à cette avancée du paradigme technocratique.
Donc il dit pas de recherche d'un remède technique à chaque problème environnemental, ne pas isoler les choses qui sont entrelacées dans la réalité, mais il faut au contraire élargir le regard.
Oui. Élargir le regard, limiter la technique, l'orienter, la mettre au service d'un autre type de progrès qui serait plus sain, plus humain, plus social, plus intégral.
Voilà, donc là, quelque part, ça nous renvoie à notre manière de réagir face à n'importe quel événement. On va chercher un livre blanc, quelques experts. Donc, on voit comment nos politiques, enfin la politique dans le sens le plus noble du terme, l'administration de la cité, c'est-à-dire l'administration qui nous concerne tous, finalement abandonne dans certains cas à un technicien. Alors, il va y avoir le technicien des transports qui va nous parler des routes, puis le technicien des camions qui va nous parler des camions à mettre sur les routes. Mais il faudrait peut-être voir en même temps la route, l'autoroute, le technicien du camion, et puis l'environnement, et puis l'aménagement des zones d'espace naturel pour que les animaux puissent circuler en même temps. Donc le fait de confier un livre blanc, alors c'est livre blanc de la jeunesse, livre blanc des transports, livre blanc de n'importe quoi, et puis tous ces livres blancs aboutissent dans des tiroirs, et souvent c'est en fait le dernier qui a parlé qui l'emporte, ou celui qui parle le plus fort,
oui,
ou celui qui est le plus à la mode. Donc là on a quelque part un type de progrès qui nous dit le pape, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral, et peut-être plus démocratique, qui permettrait aux gens de s'occuper de ceux qui les regardent, et ne pas les priver de cette réflexion. Et là, il nous évoque ce qui se passe ailleurs, dans des communautés de petits producteurs qui optent pour des systèmes de production moins polluants en soutenant un mode de vie de bonheur, une cohabitation non consumériste, quand la technique est orientée prioritairement pour résoudre les problèmes concrets des autres, avec la passion de les aider à vivre avec plus de dignité, moins de souffrance. Donc là, il se fait le chantre d'un système dans lequel on tient compte de tous ensemble, et on tient compte de tous ensemble lorsqu'ils optent pour un système de production, donc un système économique, un système d'échange, moins polluant, moins consumériste, qui permet une cohabitation, et quand même, il y a le rôle du beau, de sa contemplation. Et il nous dit, cela nous invite à une nouvelle synthèse.
Oui, une nouvelle synthèse qui, au milieu de cette civilisation technologique, perce comme le brouillard qui filtre sous une porte close. Est-ce que ce n'est pas une possibilité d'espérer de la capacité de l'homme à réagir?
Donc là, signe d'espoir.
Oui. Et pourtant, nous dit-il, les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux, parce qu'ils prennent conscience que les avancées de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l'humanité de l'histoire, et que pour un avenir heureux, il faut trouver d'autres chemins. Mais les gens ne veulent pas renoncer aux possibilités qu'offre la technologie.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'il évoque l'accumulation continuelle des nouveautés qui consacrent une fugacité qui nous mène dans une seule direction à la surface des choses. Alors je crois que là, on a un très bon exemple du côté des téléphones. Parce que le téléphone, c'est fait pour téléphoner, mais en fait, maintenant, c'est fait pour tellement d'autres choses qu'on utilise les téléphones modernes à, je sais pas, 20% de leur capacité et 80% sont laissés de côté. Parce que déjà, il faut reconnaître. Bon, alors peut-être que des gens connaissent très bien, mais disons 50% pour ceux qui sont très bons. Mais par contre, avoir le petit téléphone qui est le plus moderne, ou qui apparaît le plus moderne, donc le pape nous propose de ne pas nous résigner à cela. Ne renonçons pas à nous interroger sur les fins et le sens de toutes choses.
Donc pour ça, il est nécessaire d'avancer dans une révolution culturelle courageuse. Parce qu'il rappelle que la science et la technologie ne sont pas neutres, qu'elles peuvent se configurer de différentes manières. Qu'on ne prétend pas retourner à l'époque des cavernes, mais qu'il faut regarder la réalité d'une autre manière pour recueillir ce qui est positif et durable, récupérer en même temps les valeurs qui sont détruites par une frénésie mégalomane.
Oui, alors on peut prendre un exemple. Je regardais récemment une émission de télévision où on présentait l'utilisation du bois. Et c'était très intéressant. Mais cette utilisation du bois aboutissait à fabriquer de l'énergie électrique, par du chauffage et d'autre part de l'énergie électrique, qui serait bien pour les climatiseurs. Et là, je me dis, mais pourquoi climatiser? On peut peut-être se chauffer moins ou mieux se protéger ou construire différemment. Donc là, on voit justement cette frénésie et puis des finalités qui sont perverses d'une certaine manière. Dans le numéro suivant, le texte parle de crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne. Le pape, après avoir repéré ses fonctionnements relativement mauvais, en tout cas, il les dénonce, rappelle que la raison technique s'est mise au-dessus de la réalité, donc en contradiction avec ce que lui nous appelle à être, à tenir compte de la réalité. L'être humain, nous dit-il, n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans supposition préalable, sous forme d'un espace et d'une matière, pour une œuvre où l'on jette tout. C'est dur.
Il continue, la valeur que possède le monde en lui-même s'affaiblit. L'être humain devrait redécouvrir sa véritable place, mais s'il ne le fait pas, il ne se comprend pas lui-même, et contredit sa propre réalité. La terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, mais l'homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et doit respecter cette structure naturelle et morale dont il a été doté.
Donc là, le pape dénonce un système qui met la raison au-dessus de la réalité et qui aboutit à niveler l'homme dans le reste. Et le pape nous appelle à retrouver le sens de l'homme.
Oui, il faut, nous dit-il, prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose. Et ces limites offrent la possibilité d'un développement humain et social plus sain et plus fécond.
Alors, plus sain et plus fécond, puisque déjà l'homme en est responsable, l'homme y retrouve sa place et lui permet de retrouver une relation entre lui-même et le monde, loin du rêve de Prométhéen, de domination. Et je cite, « La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. » Donc, l'homme n'est pas le seigneur de l'univers, mais un administrateur responsable. Et l'administrateur responsable s'arrange pour ne pas détruire l'univers dont il est responsable. D'où la question et l'ouverture que le pape fait vers la préoccupation pour mesurer les préjudices causés à la nature et à l'impact environnemental par les décisions que prend l'homme.
Poursuit, quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant en situation de handicap, et ce ne sont que quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même.
Voilà, donc il appelle l'être humain à remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création. Et non pas se substituer à Dieu en finissant par provoquer la révolte de la nature.
Oui, parce que cette situation nous a conduit à une sorte de schizophrénie, d'incompatibilité entre deux tendances qui vont de l'exaltation technocratique à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain.
À la destruction de son environnement. Oui, donc. Oui. Quand la personne humaine est considérée seulement comme un être parmi d'autres qui procéderait des jeux de hasard, la conscience de sa responsabilité risque de s'atténuer. Et il dénonce le biocentrisme qui met tous les êtres vivants sur le même plan et ne donne pas à l'homme la place qui lui revient, c'est-à-dire d'être collaborateur de Dieu et d'être responsable, en valorisant, nous dit-il, les capacités particulières de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité de l'homme.
Et donc on arrive à un anthropocentrisme pervers et dévié qui fait passer au second plan la valeur des relations entre les personnes.
Et qui, ne tenant pas compte de l'environnement, provoque crise écologique, qui est une manifestation extérieure, nous dit-il, de la crise éthique, culturelle et spirituelle, alors que la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l'être humain supérieure à celle des autres créatures. Et cela donne lieu, nous dit-il, à une valorisation de chaque personne qui entraîne la reconnaissance de l'autre.
Et cette reconnaissance de l'autre, c'est l'ouverture à un tu, à un dialogue, qui est la grande noblesse de la personne humaine et qui va permettre aussi son ouverture au « tu », avec une majuscule, au « tu » divin.
Donc là, on se situe l'homme dans cette relation, relation à Dieu et relation aux autres. Eh bien, pour cette semaine, ce sera le mot de la fin. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.